On écoutait Quand les banlieusards sortent de Cazé. Allez, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Escapade. Il est 15h30 et à défaut de subir la pluie, il est l'heure de faire valser nos idées. Alors on perd pas plus de temps et on y va tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête, et on commence de suite avec nous-mêmes.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler d'addiction et évidemment de pistes de solutions dans notre série. Quelles associations sont cool dans la région? Quelles associations peuvent vous aider? Alors pour commencer, en France, sachez que la drogue illégale la plus consommée est le
cannabis.
On s'en doutait un peu, avec 900 000 usagers quotidiens. Alors ensuite, la cocaïne. Alors il y a plus d'un million de Français qui en consomment, alors pas quotidiennement, au moins une fois par an. Et sachez qu'à l'exception de l'héroïne, tous les indicateurs témoignent d'une augmentation de l'offre de drogues illicites. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte croissance des niveaux de production à l'échelle mondiale. Tout se mondialise.
Oui, et puis parce que le prix baisse aussi.
Aussi. Donc, c'est aussi des produits beaucoup plus concentrés en produits actifs et bien plus diversifiés. Depuis 2008, 450 nouveaux produits de synthèse ont été répertoriés en France. Mais ce sont surtout les drogues légales qui sont le plus consommées en France, qui sont...
Le tabac, l'alcool.
Ouais, c'est ça. Alors la consommation quotidienne d'alcool et de tabac diminue quand même en France, notamment chez les jeunes. Je pense qu'ils préfèrent les drogues de synthèse, malheureusement.
Oui, c'est plus facile peut-être.
Mais le coût social de la consommation de ces deux substances est responsable quand même de plus de 115 000 décès par an. En 2023, 246 000 hospitalisations ont été motivées par un diagnostic lié à l'alcool. Alors le coût social du tabac, c'est 156 milliards d'euros et celui de l'alcool, 102 milliards d'euros. Alors pour le tabac, il y a le Royaume-Uni qui a trouvé une solution radicale. Hein. Ils veulent faire la première génération sans tabac, c'est-à-dire que toutes les personnes nées après 2008, donc en 2009... ne pourront jamais fumer de leur vie puisqu'on ne pourra plus jamais leur vendre du tabac. Alors, il n'y a pas que le tabac, hein, c'est tout ce qui se fume. Parce qu'on interdit les produits à fumer à base de plantes et le papier à cigarettes. Voilà. Et pour nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire si on est confronté à un problème d'addiction qui nous concerne, nous, personnellement, ou un membre de notre entourage? Eh bien, on peut se tourner vers un CSAPA, c'est-à-dire un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y en a dans tous les départements en France. Et ici, c'est la DRAI qui s'occupe de ça. Alors, leur mission est pluridisciplinaire. On a de l'écoute. Le conseil, c'est anonyme et gratuit. Je voudrais rappeler ça.
Confidentiel, gratuit,
ouais.
Et personnalisé.
C'est ça, c'est pluridisciplinaire, donc il y a des médecins, des infirmières, des psychologues pour assurer le suivi médical, mais il y a aussi des accompagnateurs sociaux. Alors la DRAI est présente au Vigan, à Ganges et à Saint-Hippolyte et peut-être ailleurs aussi.
Oui, à Quissac, La Salle aussi, sur rendez-vous.
Alors un seul numéro pour les joindre, enfin moi j'ai un seul numéro mais je crois que tu en as d'autres. Alors on va déjà donner le 04 67 81 27 20.
Voilà, et moi j'ai le 04 48 18 84 46 à Ganges.
Alors,
sinon il y a le csapa.drai@interaid.fr.
Voilà.
Bottom of the sea. I'm gonna stay down, down, on. Stuck here in a dream.
Ladies and gentlemen,
how are you this evening? Our names are Ren and Eden. I hope you're sitting comfortably, relax and I'll stop breathing. Life into the music scene, addicted music, nicotine. Don't lose your head like guillotines. I'm tapping on the drum machine, they're blowing off the ceiling. With rhymes that I'm revealing. Producer, poet, singer, songwriter with the feeling. I split the wicked cricket team. I'm beating it like Billie Jean. It's time for heroes, libertine. Stretch your mind like limousines. I rip the scratch, spitting quick, the splits. And that I'm spoken with. And I'm dope and gold to the broken holes. And MC's like a beauty kit. I break this, lit this, myth it. Break the chits, the chatter, strategist. The passionate, blasphemous.
this alchemist making a manuscript. I'm taking away the defects, and I'm making the cake when I'm making the bacon. I'm making mistake, my mate, but I learn and return when the lessons it makes. And I'm vividly given the golden ability, literally killing the contest officially. Oh, bro, you know I show flow agility.
Back at the bottom of the ocean, I'm at the bottom of the sea. I'm gonna stay down, down, oh, stuck here in a dream.
Oh, at the bottom of the sea, I rise to the top with these vibes that I drop, and ain't nobody stopping me. Yeah, I spilled my soul on the sheet of paper. Brain is my source, and my tongue creates the tongue twist. Kiss your lips, can't resist, and my rhymes flow like the sea. Out on my own, down by the sea, walk to the waves, dip in my feet, carry my hurt, carry my pain, give me new life, baptize me, carry me so, so far away, a place where my dreams become night and day, a place where I know I can achieve, ocean, ocean, help me believe.
Trouble no more, I'm a free man.
Trouble no more, I'm a free man.
Shackles gonna fall off his feet and
shackles gonna fall off his feet and
fall to the floor, you know I'll rebound.
Fall to the floor, you know I'll rebound.
King of the shore, you know I won't drown.
King of the shore, you know I won't drown.
No, no, no trouble no more, oh, I'm a free man.
Trouble no more, I'm a free man.
The ocean, I'm at the bottom of the sea. I'm gonna stay down, 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 stuck in a dream.
C'était Eden Nash, Ocean, et maintenant Jean-Michel Mallet épreuve notre mémoire avec son quiz musical.
Salut les loulous, salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi? Ouais. J'ai rien entendu, ouais. Alors, comme il n'y a pas assez de musique sur Radio Escapade, on va parler musique, alors faites valser vos idées, à vous de deviner de quel groupe ou de quel artiste je parle. Vous allez me dire, mais c'est un quiz. Oui, tu me dis bien, c'est un quiz. Alors, il est né le 30 mars 1948 à Longuyon. C'est un chanteur, acteur, publicitaire français. Il a écrit la plupart des textes de ses chansons, souvent sur des musiques de Claude Angel. Il est d'origine juive polonaise. Il pratique le stroutisme à l'époque, hein, quand il était minot. Il rencontre lors d'une colonie l'animateur Jackie. Oui, avec qui il devient ami. Il commence sa vie professionnelle en 1972 dans l'agence publicitaire de Walter Thompson, dont il est renvoyé l'année suivante pour mauvais esprit. En 1974, il crée avec Jacques Godilla l'agence de publicité Gadcase, spécialisée dans les spots radio, les bandes son pour la télévision. Il crée des tubes publicitaires célèbres comme Vittel, par exemple, pour Vittel. Buvez, éliminez. Infinitif, voilà, pour Banga. Dans Banga, il y a des fruits, il y a de l'eau. Voilà, pour Belle Eau des Champs, qui est devenue, je crois, je ne sais plus, un autre fromage, un autre nom, je crois, Caprice des Dieux. Mais bon, Belle Eau des Champs, c'était tu baguenaudes dans les pâturages. Voilà, sur pour Choco BN, bien sûr, Choco BN, il est 4 heures, à la bonne heure, on a du Choco BN. Pour Sopiquet et pour Danette. Donc, on se lève tous pour
Danette.
Eh oui. Donc, de 1982 à 1985, alors à l'agence Grey, il assure la voix off et la musique de dessins animés publicitaires pour les chewing-gums Malabar. Donc, quand il y en a marre, il y a Malabar.
Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son
papa, le bon pépère que son kiki préfère.
Et sa mémère alors, et sa mémère, où elle est la mémère à sa nounouche. Elle était où, hein, sa mémère, qui donne du susu qu'avec la boubouche.
Il était où, hein, le yuki.
Il était où, le gentil titoutou. Il était où, hein, le yuki, le gentil titoutou. Il était où.
Qu'il était son papi et son pépère, où c'est Katie, où c'est qu'il était le yuki, le gentil kiki à mamie.
Où ça, hein, où ça, où ça, hein, où ça.
Il était là le bouchou Pikachu, il était là le plus beau des cookies. Il était là qui, le poupoupou, le plus joli de tous les bounouki. Et c'est à qui tout ça, c'est à Kiki. C'était les papas de poilu. Et la queue-queue, hein, c'était à qui. C'est à Yuki la queue-queue qui remue.
Et le Yuki alors, il est à qui. À qui c'était le mignon choupignou. À qui c'était, hein, le beau Yuki. À son papy ou bien à sa nounou.
Il est à qui, hein, le kiki. Il est à qui le gentil titoutou.
Il est à qui, hein,
le Yuki. Le gentil titoutou, à qui c'est qui. C'était pas à son papi, à son pépère, alors à qui il était le yuki, si c'était pas à sa mamie.
À qui, hein, à qui.
Qu'est-ce qu'il a fait là, oh là le vilain. Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qui m'a fichu ça. Veux-tu venir ici gros dégoûtant. Et pas bouger, assis debout couché. À son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché.
Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère a Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux.
Le plus cucu, hein, c'était qui. Mais qui c'est qui des deux le plus neuneux. Le plus neuneux, hein, c'était qui. C'est qui le plus cucu des deux. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Et oui, ben oui, ben c'était le Yuki, hein, si vous avez un chien ou deux ou trois ou dix. Bon ben voilà, Yuki 1, Yuki 2, Yuki 3, Yuki 10. Alors vous avez deviné c'est qui.
Oui.
Oui.
Il n'y a mais... que des milliers d'hommes qui n'ont pas trouvé.
Ben, si oui, ben attendez la suite de la chronique. Ben sinon, ben, c'est pareil, hein. Voilà. Ben maintenant, maintenant c'est à Yuki, c'est à Lydia, c'est à Lydia.
Merci Jean-Michel. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter de connaître cette chanson.
Subversive.
Alors, au début de l'émission, nous avons parlé d'addiction à des substances, mais il y a aussi des addictions sans substances, des addictions comportementales, alors qui sont également prises en charge par les centres de soins, hein, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc oui, la DRAI s'occupe aussi des addictions comportementales. Alors, on trouve quoi? Ton avis, on trouve quoi?
Les jeux à gratter, par exemple.
Ouais, les jeux en ligne aussi.
Le turf, le tiercé, ouais. Les jeux en ligne.
Les jeux ouais, en ligne, le ouais. Poker.
Sachant ça. qu'on peut tout à fait parier H24 en ligne, parce que c'est 24 heures sur 24.
C'est ça. Alors, quand ça devient donc hors de contrôle, hein, alors il y a une perte de lien social, on s'endette et... Il y a des personnes qui ont des emplois, hein, au départ et qui finissent par le perdre parce qu'ils sont accros à leur jeu.
Oui, oui. D'ailleurs, voilà. Il y a certains sites qui relancent les perdants. Je sais que certains sites relançaient des perdants en leur donnant des crédits.
C'est ça.
En leur filant des crédits supplémentaires. Alors, ils sont à moins zéro, enfin moins.
et il leur file 50 balles ou 100 balles de cred supplémentaires pour qu'ils s'endettent encore plus.
Pour qu'ils s'endettent alors ça peut finir en suicide aussi.
Ça finit mal. Généralement, ouais, ça finit très mal.
Donc, quand vous commencez à voir que vous passez votre temps à faire des jeux sur Internet, des jeux en ligne et que vous n'avez plus de lien social, commencez à vous inquiéter. Déjà un peu avant, essayez. Voilà, donc allez voir la DRAI. Alors, il y a l'addiction à la nourriture. Alors, je trouve que c'est un peu mixte, parce que plus que comportemental, enfin les deux. Parce que la nourriture, c'est une substance en quelque sorte, parce que c'est surtout du sucre et des graisses. Que les gens se mettent à manger ça de façon compulsive.
Enfin, je ne sais pas si on appelle ça la boulimie. Ou...
Non, ce n'est pas de la boulimie, non. Justement, c'est encore autre chose. Manger compulsivement, la boulimie, tu vas te faire vomir. Ou... Tu vois, c'est une autre chose. Non, là, c'est vraiment de manger compulsivement parce que le sucre et les graisses entraînent une excitation du système de la récompense dans le cerveau. Et du coup, le cerveau ne joue plus son rôle de coupe-faim. C'est un peu comme quand, par exemple, moi, j'aime beaucoup les chips au vinaigre. Donc, j'évite d'en avoir chez moi parce que je bouffe tout le paquet comme ça. Et ce n'est pas de la faim, c'est juste que je trouve ça trop bon. Voilà.
Mais c'est sucré, les chips au vinaigre, elles ne sont pas sucrées.
Non, mais il n'y a pas que le sucre, il y a des graisses, tu vois, qui mettent des trucs addictifs dedans. Et bon, il y a les bonbons, évidemment. Et le risque, c'est l'obésité, en fait. Donc, c'est pareil, de manger des paquets de bonbons sans arrêt, tout le temps, de manière compulsive, c'est une addiction, en fait.
Est-ce que l'anorexie, c'est une addiction aussi?
Non, l'anorexie, c'est une maladie. C'est une maladie mentale. Là, non, c'est de la compulsion à manger. Après, on peut y associer peut-être d'autres pathologies, mais c'est vraiment pas de la boulimie, parce que la boulimie, c'est aussi une maladie mentale.
Se faire vomir, comme tu dis.
C'est ça. Là, c'est vraiment juste, on est accro au sucre ou aux graisses, aux additifs qu'ils mettent à l'intérieur, qui vous rendent addict, c'est pour qu'on en bouffe. Puis après, si on a un peu de dépression, on sait que c'est un réconfort aussi de manger.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais ça fait que s'aggraver, ça arrange rien. Donc, voilà. Et alors, pour finir, moi, celui-là, je l'ai trouvé incroyable, mais il est répertorié comme une addiction. La nomophobie. Alors, c'est la contraction de nomophobie phonophobia, qui désigne la peur irrationnelle et anxiogène d'être séparé de son téléphone mobile. Alors, c'est reconnu vraiment comme une addiction comportementale, même par l'OMS. La nomophobie touche principalement les adolescents et jeunes adultes. Je regarde ça, notre ingénieur son. Et les jeunes adultes avec une prévalence estimée à plus de 50% chez les 18-25 ans. Alors, les symptômes de la nomophobie, comme ça tu vas savoir si tu es atteint ou pas.
Alors, transpiration.
Anxiété intense quand le téléphone portable n'est pas accessible. Stress permanent lié au niveau de batterie. Peur irrationnelle de manquer des informations importantes. Sentiment de panique en l'absence de réseau. Difficulté de se concentrer sur d'autres activités. Les signes physiques.
Non mais c'est vrai, quand on n'a pas de réseau, c'est chiant.
Ah oui, c'est vrai que c'est chiant. Alors, augmentation du rythme cardiaque, transpiration excessive, tremblement, difficulté respiratoire, nausée ou maux de ventre.
Ah, tu prends un Xanax, c'est bon.
Ah, attends, il y a l'addiction aux médicaments aussi.
Ah,
là,
oui,
c'est les drogues.
Donc... Oui, tout à fait. Ben, oui, la DRAI aussi
s'occupe des addictions. De toutes les addictions,
oui,
en fait.
Oui. L'addiction... Donc ici, on a un petit dépliant, donc l'addiction aux amphétamines, au cannabis, à la cocaïne, à l'ecstasy, au GHB, à l'héroïne, à la kétamine, au LSD. Et j'en passe, quoi, parce que bon, sans compter toutes les drogues de synthèse dont tu as parlé précédemment.
Ouais, et les médicaments, voilà. Alors, les études scientifiques suggèrent que ces addictions comportementales ressemblent fortement aux dépendances à l'alcool et aux drogues. Donc c'est sérieux quand même, tu vois. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider si vous vous sentez concerné. Quant à moi, je vais essayer de me rappeler de rallumer mon téléphone après l'émission. Bah ouais, moi j'oublie tout le temps. Peut-être que j'ai la phobie de recevoir des appels.
« Look at your face, mate. A class, isn't it?
£300 to take a class in it. I wanna break the phone, I wanna leave the town, I wanna see you alone, 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 alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, dark. A few stairs about, make it feel like peace in a way, compliment around, consolation, got a twist in it, for a GPO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary. Given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna hear. I'm a hammer, never turned up challenger. I wanna keep on your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I've got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live by carry on, cause a real scavenger. It's my opportunity, keeping me from me.
Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1, 2, 3, swallow the key. In their footprints, I will follow.
C'était Fontaine d'ici, Starbusters. Alors, un petit rappel des fréquences. 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort et sur www.radioescapade.org dans le monde entier, l'univers entier. Et maintenant, Jean-Michel continue de nous titiller la cervelle.
Alors, retour au quiz, les amis, avec Primitif, Poil au tableau, le Sampa, extrait du film Le Maître d'école. Je pense que Le Maître d'école, c'était avec Coluche. Ouais. Vendu à 500 000 exemplaires en single. Hein. La balade de l'obsédé, le mambo du décalco, femme à lunettes, bien sûr. Chippy, le Yuki, qu'on vient d'entendre il n'y a pas longtemps, là. Voilà, ben, sont des chansons, ben oui, sont des vraies chansons, qui comptent parmi les plus connues, voilà. Il donne par ailleurs 250 représentations de son spectacle musical co-écrit avec Eric Christie, La Goutte au Pépère, musique d'Étienne Perruchon, dont une représentation à l'Olympia.
qui a eu un succès fou à l'époque. Lorsqu'il cesse sa collaboration avec Claude Engel, son compositeur attitré, il travaille avec Michael Lapi pour un album aux ambiances rock et électro. En revanche, Selmar Engel, le frère de Claude, travaille à ses côtés comme ingénieur du son et musicien. Après son album live Comme à la maison en 2010, l'auteur-chanteur annonce en 2017 qu'il prépare un nouvel album studio ainsi qu'un ouvrage sur ses rubriques à la radio. Oui, parce qu'il faisait de la radio, j'oublie de vous le dire, comme nous là, actuellement. L'album Saperlipopette sort en juin 2018. Le 19 mars 2018, quelques mois auparavant, l'Union nationale des auteurs-compositeurs lui remet le Grand Prix en hommage pour sa carrière. Avec 10 albums studio, une bande originale de films, une bande originale de spectacles, 2 albums en concert, un spectacle pour enfants, une compile pour enfants. Et comme acteur, il a joué donc dans 6 films. En 81, Le Maître d'école, bien sûr, de Claude Berry. Il est le chanteur du mariage. Jusqu'en 2016, où dans Le Cabanon rose de Jean-Pierre Mocky, il est Ravel. Il a joué aussi dans 9 films de télévision. En 1987, dans Objectif nul, voilà. Et jusqu'en 2021, Astrid et Raphaël. Et il a fait plusieurs publications, dont Astérix, Vive la Gaule en 1987, avec Gottlieb et Uderzo. We'll be right back.
Alors, ben, c'était le Sampa, hein? Donc, si vous voulez
Richard Gottener.
Donc, si vous voulez écouter une bonne partie de sa production musicale, bah, allez sur YouTube et ouais, bah, vous tapez
Richard Gottener.
Oui, Richard Gottener. Voilà, hein, mais vous cliquez sur skip surtout pour passer les pubs, hein, qui parasitent le truc, quoi, là.
Il en a fait plein des pubs.
Il en a fait plein de pubs, mais bon, si vous voilà, si vous tapez sur skip, vous allez passer les pubs et puis bon, vous allez retomber sur des pubs probablement.
Alors là, on va faire un peu un cours d'histoire un peu triste, d'histoire contemporaine.
Oui,
hein.
Oui, complètement. On va être dans le mal.
Dans le mal.
Un peu, oui. Ouais, ouais.
On aurait dû mettre Gottener après.
Peut-être, oui, peut-être. Ouais. Non, mais là, c'est pour la commémoration des 40 ans de.
De la catastrophe de Tchernobyl, qui est donc un accident nucléaire majeur survenu le 26 avril 1986. Dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl. Alors, c'était situé à 3 km de la ville de Pripyat et à environ 130 km au nord de Kiev, qui à l'époque était encore soviétique. Et ouais, c'était pas encore ukrainien.
Non.
Décidément, ils ont pas de chance, hein, les Ukrainiens.
Non, non, ils ont pas de chance.
Alors, classée au niveau 7, c'est la plus grave catastrophe nucléaire jamais survenue à ce jour, devant l'accident nucléaire de Fukushima de 2011, bien qu'il soit classé au même niveau, niveau 7. L'accident est provoqué au cours d'un test de sécurité. Bah, je pense qu'ils ont mis un petit peu trop de temps à faire leur test de sécurité.
Ben, ils ont je crois, baissé la comment dire l'intensité du réacteur pour ensuite l'augmenter, puis ensuite la baisser, et puis ça a explosé, quoi. Voilà.
Donc voilà, une première explosion, pouf, sous la pression de la vapeur. Alors, couplée avec une autre explosion d'oxygène et d'hydrogène qui expulse à l'air libre des éléments radioactifs, ouais, appelés radionucléides. Et enfin, une fusion au cœur du réacteur.
Voilà, le cœur du réacteur faisait à peu environ 40 000 degrés. Pour vous donner
ça me donne aucune idée. Ça a l'air très
degrés.
Très chaud.
C'est très très chaud. C'est très 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 chaud.
Pendant la canicule à 40 degrés comme on a chaud.
Le principe d'un réacteur, c'est simplement une source de chaleur qui fait chauffer de l'eau. L'eau se transforme en vapeur, on sait bien que la vapeur est sous pression, qui fait tourner une turbine.
En fait, c'était une grosse cocotte minute.
Voilà, Donc, qui fait tourner une turbine, la turbine tourne et donne de l'électricité. C'est Denis Papin, mais en mieux.
En mieux.
Là, non.
Sauf quand ça se passe mal.
Ouais, là, c'est passé vraiment mal, quoi.
Ouais, donc le cœur éventré se retrouve à l'air libre et d'énormes quantités de produits radioactifs sont rejetés dans l'atmosphère pendant plusieurs jours à travers l'Europe et le monde. À travers l'Europe, sauf la France. Hein.
Oui, sauf la France, oui, enfin, oui, éventuellement.
Officiellement.
Oui, officiellement.
Même on pas nous dit que le nuage s'est arrêté à la frontière. Il a vu la France, il a dit « Oh non, pas là
ouais, ». On avait des ventilateurs
pour pousser le nuage,
pousser
je
le
sais
nuage.
Pas.
Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé vraiment à se dire « On ne se foutrait pas de notre gueule, là ?»
On dit les Russes, bon, on cachait quand même le truc, mais bon, en France...
Mais c'était pas mieux, non.
En France, on a...
Dans les autres pays d'Europe, on a quand même dit « Ah bah oui, il y a un nuage radioactif !»
Oui, tout à fait.
Et nous, non, le gouvernement et les journalistes qui ne sont pas plus affolés que ça, qui nous ont dit « Non, mais il n'est pas passé au-dessus de la France. » Bon, évidemment, c'était faux.
Ah, je pense que
et la Corse a bien pris.
Oui, ce sont les Suédois qui se sont aperçus que le taux de radiation était élevé chez eux. Parce que quand les ouvriers rentraient, parce qu'ils ont aussi des centrales atomiques au Suède, et quand les ouvriers rentraient dans la centrale, ils étaient testés. Et donc, ils étaient testés avec un taux de radiation élevé. Qui venaient de l'extérieur. Donc, ils se sont aperçus que ça venait pas de leur centrale atomique, mais ça venait de l'extérieur. Et le vent étant venant de l'Est, ils ont conclu qu'il y avait un problème à l'Est.
Il se passe un truc.
Oui.
Alors, pour l'explosion, on a envoyé des pompiers hein, qui ne connaissaient rien en nucléaire, visiblement. Bon,
oui,
ils sont décédés. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a 70% qui sont décédés. Les 30% qui restent sont malades.
Voilà. Donc, ensuite, on a envoyé des personnes. Alors, ça s'appelle 600 000 liquidateurs. Des
oui.
liquidateurs.
Oui, tout à fait. Les liquidateurs.
Qui ont été liquidés.
Qui y allaient parce que comme l'explosion a dégagé énormément de débris, les liquidateurs étaient chargés de balancer les déchets qui restaient sur les toitures. Parce que bon, quand il y avait la toiture du réacteur, parce qu'il faut savoir là-bas qu'il y a quatre réacteurs. Hein. Donc il n'y en avait pas qu'un, il y en avait quatre. Donc le numéro 4, il a explosé, il en restait 3, et il y avait des débris sur le toit du réacteur numéro 3. Donc il fallait des débris hautement radioactifs. Donc il fallait dégager les débris. Ils ont utilisé des robots qui ont vite merdé avec la radioactivité. Les robots se sont même précipités dans le vide. Voilà. Et puis donc, il y a eu 600 000 liquidateurs qui ont été chargés de nettoyer le toit, ce qu'ils ont appelé des robots humains, en fait. Et donc, ils avaient une minute, à peu près, une minute et demie pour dégager des gravats, et puis après, rentrer. Ils étaient tous bien irradiés. Hein, parce qu'il faut savoir que ça dégage des rayons gamma et des rayons bêta qui normalement sont dégagés aussi par le soleil, mais on a la chance d'avoir sur Terre d'avoir une enveloppe qui nous évite d'avoir trop de gamma et trop de bêta. Mais là, ils ont pris. Hein. Voilà.
Alors, au début du mois de mai, on a fait une petite zone d'exclusion, un rayon de 10 km.
Oui.
C'était un peu léger. Donc après, ils se sont dit, on va l'augmenter à 30 km. Alors au total, on a évacué 135 000 personnes. Mais pendant les mois qui ont suivi, hein, ça n'a même pas été tout de suite.
Oui,
ils ne sont pas partis tout de suite. Non. Ça s'est fait lentement, petit à petit.
Oui, tranquillou, quoi.
Enfin... Voilà. Et là, on s'est dit, on va peut-être construire un sarcophage pour éviter
pour
diffuser.
Oui, tout à fait.
Alors, on en a fait un au cours de l'année 1986. Donc,
oui, en fin d'année 1986.
Sous le Soviet suprême.
Oui, tout à fait.
Et pour isoler, donc limiter les rejets et tout. Ouais. Et en 2012, deuxième sarcophage, alors là, sous l'Ukraine,
oui.
débute la construction donc, de ce l'arche de Tchernobyl.
Oui, oui, en fait, c'est en forme d'arche.
C'était pour protéger le premier sarcophage.
Oui, tout à fait, parce que le premier sarcophage avait des fuites. Ils se sont aperçus que c'était plus un acte, on va dire, politique qu'un acte vraiment physique. Parce
voilà.
que il y avait le premier sarcophage... Il a vite, ça a vite merdé, quoi.
Voilà. Ouais. Alors ça s'est terminé le deuxième sarcophage, la construction en 2019 année. Hein.
Donc l'arche de Tchernobyl, faut vous dire, pour vous donner un ordre de mesure, sa hauteur c'est de 108 mètres de haut, hein. Voilà. Sa largeur 162 mètres et pour une envergure une portée de 257 mètres. Et cette arche a été construite à côté du réacteur qui avait pété. Et ils l'ont amené sur des rails. Voilà, ils l'ont glissé sur des rails pour recouvrir le réacteur. Parce que, évidemment, vous vous en doutez qu'on ne pouvait pas travailler immédiatement dans l'endroit même. Hein. Voilà. Par contre, le premier, il a été fait, voilà. Bon, avec... énormément de maladies pour les...
Alors voilà. non, c'est vraiment... c'était une catastrophe terrible. C'est aussi une catastrophe qui nous a permis de voir vraiment qu'on nous mentait énormément.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Donc en février 2025, parce que vraiment ils n'ont pas de chance les Ukrainiens, la structure métallique recouvrant le réacteur a donc été perforée par un drone russe. Et ouais, parce qu'ils sont en guerre maintenant.
Bah oui.
Donc les Russes, ils se sont dit quoi ? Bah tiens, si on allait péter le truc qu'ils ont fait pour protéger le premier sarcophage.
Oui.
Enfin bref. Donc, voilà. Alors,
il faut savoir aussi que l'armée russe a fait des tranchées, là, à côté du réacteur, Bon ben voilà, en remuant ben tout ce qu'on est, voilà ce qu'on en parlait, les radionucléides qui sont restés voilà sur la Terre quoi, sur ouais. Terre.
Donc ouais. Alors on estime le coût des réparations là pour les dégâts du drone à 500 millions d'euros. Alors aucune décision de réparation à ce jour n'a été réalisée hein, à part quelques blabla politiques internationaux.
Oui.
Et il reste 190 tonnes de combustible à base d'oxyde d'uranium. Elle est vraiment gaie, cette rubrique.
Oui, non, mais voilà, mais il fallait en parler.
Mais en 40 ans, ça ne fait... Il n'y a rien qui s'est vraiment arrangé.
Non. Et quand on voit Trump qui veut choper les 450 kilos d'uranium plus ou moins enrichi de l'Iran, là, actuellement, ouais, ça fait rigoler, quoi. 190 ouais. tonnes de combustible qui restent voilà, dans le cœur du réacteur. Bon, en
fusion. Peut-être de l'argent à mettre autre part. Déjà, contenir ça.
Il devrait y aller là-bas pour choper, pour aller retirer les 190 tonnes. On verra s'il fait encore son malin, lui.
Bon, enfin voilà. Alors à l'époque, en 86, le gouvernement soviétique, donc. Est accusé par la communauté internationale d'un manque de communication, envers le reste du monde. Les autorités ne communiquent officiellement sur l'accident que plusieurs jours plus tard. Oui, il y a eu ça aussi, on n'a pas été prévenus.
Oui, tout à fait. Oui.
Et ils en minimisent la gravité, c'est pas trop grave, ça a un petit peu pété.
Oui.
Alors, au sein même du gouvernement, alors ça m'a tué, la communication est défaillante. Mikhail Gorbatchev, le secrétaire général du comité central n'a informé officiellement que le 27 avril et doit faire appel au KGB pour obtenir des informations fiables.
Oui. D'ailleurs, les informations fiables, c'était les responsables, l'ingénieur, le directeur de la centrale. Ils ont pris, je crois, entre 12 et 10 ans de prison. Hein, ils ont été jugés. Bon, il faut savoir que c'était une défaillance en fait technique. Hein. Voilà, c'était une mauvaise conception du réacteur, en fait. Voilà.
Alors, l'événement a des conséquences sanitaires, évidemment, sans en doute, hein, écologiques et économiques importantes. Plus de 200 000 personnes sont définitivement évacuées de la zone, ça aura mis longtemps quand même. L'accident aurait, alors officiellement, provoqué entre 43 et 4 000 morts. Alors ça, c'est juste l'accident, c'est pas...
Oui, c'est pas les conséquences.
C'est pas les conséquences parce que en fait il y a eu déjà il y a eu les 600 000 liquidateurs, ils sont ou morts ou malades de toute façon. C'est énorme. Là ça serait juste l'accident, dans le moment de l'accident qui aurait eu entre 43 et 4 000 morts officiellement. Mais il y a aucun chiffre.
Non.
De toute façon, on ne peut pas vraiment mesurer,
ça, ce sont
je
les
pense.
Chiffres officiels, quoi. Mais bon, les chiffres officieux sont beaucoup plus importants.
C'est voilà. Ça.
Donc, une grande quantité de déchets radioactifs a été produite suite à l'accident, bien sûr. Une partie de ces déchets a été conservée sous le sarcophage et une autre a été stockée en surface ou enfouie dans de nombreux dépôts et tranchées, au nombre à peu près de 1000, rien qu'en Ukraine. Où le volume des déchets a été évalué à environ 1 million de mètres cubes, avec une radioactivité très élevée. Ces déchets ont été répartis selon leur niveau d'activité. Donc à l'heure actuelle, seules les tranchées accueillent encore ces déchets. Donc comme bon nombre de ces tranchées ne sont pas étanches, les radionucléides ont pu s'échapper vers les eaux souterraines, hein, bien sûr. Pour y remédier, les autorités ont élaboré des aménagements tels qu'un système de drainage des eaux, des barrières ou encore des puits de surveillance. Jetez un œil. En outre, les tranchées ont été construites afin d'accueillir de nouveaux déchets, notamment sur le site de Burakovka en 2019. Il en est de même sur le site de Vector, qui doit accueillir des déchets de la centrale de Tchernobyl, mais également d'autres centrales ukrainiennes. Voilà. Avec l'aide de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine, une base de données a été créée de 1999 à mi-2000 pour décrire et localiser ces déchets et permettre leur suivi. Pour ces trois pays, on aurait localisé environ, hein, parce que les dépôts ont été faits comme ça à l'arrache, 45% des dépôts.
Ça veut dire qu'il y a 55% qu'on ne sait pas où c'est, tous ces déchets, super. Voilà. On est drôlement rassurés. Et même les 45, on n'est pas sûr.
Bah, on n'est pas, non, on n'est pas très sûr. Non, on n'est pas sûr.
Donc c'est carrément flippant. Et puis quand même, ça arrivait en 86, ça fait 40 ans.
Oui.
La localisation, c'était en 2000, donc ça fait 26 ans. C'était il y a 26 ans. Depuis, on fait quoi en fait?
Et ben depuis,
il y a des déchets qui se baladent, on ne sait pas où.
Depuis 26 ans, comme on a dit tout à l'heure, en février 2025, ils ont perforé avec un drone russe le sarcophage. Sinon, il y a eu des surveillances évidemment du site, quoi, et des surveillances du site. Mais bon, il faut savoir aussi que les trois réacteurs dont je parlais, les trois réacteurs qui restent, sont encore en activité à côté. Voilà. C'est pas...
J'aimerais pas vivre dans le coin en vrai, entre la guerre.
À part les techniciens, il n'y a personne.
Oui,
à part
ils
les
peuvent pas vivre
pour faire tourner
que...
les centrales. Il y a personne d'autre. Hein. Bon, si maintenant il y a l'armée russe.
Oui.
Voilà. En attendant le prochain trou dans le dôme, dans l'arche de Tchernobyl.
Voilà. Et ouais. Non, les nuages ne s'arrêtent pas à nos frontières, donc oui, c'est inquiétant pour nous aussi.
Voilà, donc pour finir, en 10 jours, le taux représente 30 000 fois l'ensemble des rejets radioactifs atmosphériques émis en 86 par les installations nucléaires en exploitation dans le monde entier. On n'a pas fini de ne pas en entendre parler, au moins pour 20 000 ans.
Thank you. Zukunft gehen.
C'était Radioactivité de Radioactivity de Kraftwerk. Rassurez-vous, en France, toutes nos centrales sont sécurisées. On ne risque rien du tout.
Ouais, bon. Si le navire n'obéit pas au gouvernail, il devra bien obéir au récif. C'est un proverbe breton, ça va bien avec la pluie et le temps.
C'était Faites valser vos idées. Merci à Lydia et à moi-même. Un big bisou à tutti la familia. Merci à Issa pour la réalisation. À bientôt. Merci, bisous, merci. Portez-vous bien.